BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, il est 9h passé de 31 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business, c'est les experts. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse jusqu'à 10h30 avec ce matin, évidemment, les conséquences de ce cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis qui annoncent la fin de la guerre, le détroit d'Ormuz doit rouvrir vendredi, a annoncé Donald Trump, qui est arrivé à Evian pour le G7. Mais qui sort véritablement vainqueur de cet accord? Le pétrole va-t-il retomber? L'inflation refluer? Les banques centrales vont-elles desserrer leur étau? Et cette accalmie, très important, cette accalmie permettra-t-elle à la France d'éviter la récession? Ce sera le premier thème des débats ce matin. On parlera aussi compte public. L'Institut des politiques publiques pose une question simple ce matin. Qui décide? Qui paie? Et surtout, qui est responsable? Qui est responsable de l'incurie budgétaire depuis 50 ans? Faut-il revoir toute notre gouvernance budgétaire? Et enfin, mesurer l'utilité de chaque euro dépensé? Autre débat explosif, faut-il supprimer l'âge légal de départ à la retraite? C'est ce que proposent Gabriel Attal et Jordan Bardella. Oui, mais les experts tiquent, est-ce véritablement une bonne solution? On en parlera avec mes experts. Et puis, on parlera enfin fonds d'investissement, fonds vautour. Prédateur, nous dit Aurélie Trouvé, députée LFI, présidente de la commission économique de l'Assemblée nationale, qui vient de rendre un rapport sur le sujet. Faut-il encadrer les LBO et bâtir enfin de grands fonds européens? Ce sera le dernier thème des experts ce matin. Voilà pour le programme. Il est 9h passé de 33 minutes. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anne-Sophie Alsif. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Économiste du cabinet d'audit BDO France, professeur à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. À vos côtés, Guillaume Poitrinal. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et Valentine Hennous. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Responsable de la stratégie taux chez Amundi. Alors évidemment, l'actualité brûlante du jour, c'est cet accord trouvé entre l'Iran et les États-Unis pour les 80 ans de Donald Trump, juste avant l'arrivée du président américain au G7 à Evian, qui se tient en ce moment même. Bon, d'abord, cet accord qui tient, de ce qu'on comprend pour l'instant, sur une fiche Bristol. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais accord de ce que l'on sait? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Allez Anne-Sophie, je commence avec vous.
Alors premier déjà, je pense que la chose qui est principale, c'est que déjà on a un accord. C'est ça vraiment l'élément qui est le plus important.
Ce qu'on peut saluer.
Et surtout, on reste un petit peu dans le scénario central. Hein. Souvenez-vous, même sur ce plateau, on parlait toujours de risque de récession au niveau mondial, etc. Avec cet accord, on s'en éloigne énormément. On avait en fait vraiment deux scénarios. Un scénario noir où justement il n'y avait pas de déblocage du détroit d'Ormuz l'année prochaine, en 2027, et donc on était vraiment dans un conflit long. Et là, il y avait un risque de récession. Et le scénario central, qui était plutôt en effet le nôtre, hein, de dire qu'il allait en tout cas avoir un accord sur le détroit d'Ormuz, parce qu'on voit quand même que l'accord se base beaucoup, beaucoup sur le détroit d'Ormuz, même si la géopolitique va continuer avec sûrement des conflits qui vont continuer. Mais en tout cas, ce détroit d'Ormuz devrait être débloqué. Et donc là, on est dans le scénario central qu'on confirme. Ça veut dire qu'au niveau mondial, on n'est pas du tout, en tout cas, on échappe à une récession, hein, puisqu'on est à 2,8 cette année, donc on voit qu'on n'est pas dans un scénario de récession, avec un ralentissement partout, de 0,3 à 0,4 points, pays développés, pays en voie de développement, et des grands pays qui, quand même, qui tiennent. Les États-Unis, on sait que l'investissement en IA à plus de 2%, la Chine à 4,5%, et l'Europe, par contre, qui ralentit plus fortement, hein, puisqu'on était avant la crise à 1,2 de croissance, et là, on est à 0,8%, donc on a perdu 0,4 points. Donc, ouais. Ralentissement économique grâce à cette
guerre. Alors, a coûté cher cette guerre quand même, hein.
Alors, a coûté cher. Beaucoup moins cher que ce qui s'est passé avec la Russie, hein. Il faut le rappeler parce qu'il y avait plein de comparaisons au début du conflit. Oui. Ça n'a strictement rien à voir. Mais par contre, avec cet accord, on risque d'être dans le scénario central. Donc, ralentissement de la croissance. Mais on échappe au risque de récession pour l'instant.
Bon, 0,4 points de PIB en moins pour l'Europe. Oui. On est une des victimes. Mais, Guillaume, les gagnants, les perdants.
Bah, honnêtement, c'était pas une super idée, quoi, d'attaquer l'Iran, quoi. On peut se le mettre dans tous les sens. C'était même plutôt une très mauvaise idée. Mm.
C'était il y avait des objectifs au départ. Hein.
C'était pas préparé.
Enlever le régime des mollahs. Bon.
Les mollahs ont vachement bien joué, quoi, à la fin.
Donc c'est l'Iran qui en sort l'Iran renforcé sort, de ce conflit.
Sortir renforcé de tout ça. Bon, pour ce qui nous concerne, évidemment, il faut que le détroit d'Hormuz s'ouvre. Enfin, ceux qui se sont ridiculisés, c'est quand même la BCE, quoi, d'avoir augmenté les taux, genre 48 heures. Ils sont toujours à contresens, hein. Un jour, on les verra.
On va augmenter
les taux 48 heures avant la paix. Ils s'étaient mal renseignés. Mais bon, voilà.
Mais on a une inflation constatée qui a augmenté quand même.
Hein, oui, c'est enfin, ça comme si c'est une inflation pétrolière et que tout ça, c'est le détroit d'Hormuz. Il y a un moment donné, on va pas soigner le détroit d'Hormuz.
La façon dont on termine, c'est quand vous avez de l'inflation pétrolière, ensuite, ça va au bien industriel, ça va au service et ça va au salaire.
La Banque centrale, c'est une forme de contagion.
Anticipation plus que le taux d'inflation.
Valentine Hénouze.
Alors, les gagnants, moi je dirais les marchés. Hein, les marchés, ils aiment bien cet accord, ils ont réagi très positivement. Oui. Les gagnants.
SpaceX.
Oui,
certains ont dit que cet accord, c'est aussi à cause de SpaceX. Hein, le Nasdaq perdait jeudi 2%. Quelques heures après, Trump annonce boum.
Après, il y a une. Alors, si on veut lire.
On s'arrange, ça repart, et voilà. Ah, mais.
Alors, sur les marchés, enfin moi ce que je dirais, les gagnants, on a les marchés, on a tous les consommateurs, les entreprises qui ont vu, les consommateurs ont vu leur pouvoir d'achat baisser, les entreprises, leur coût de production monter. Et après, ben, les perdants, c'est tous ceux qui ont anticipé un changement de régime en Iran.
Oui.
Je pense que, et les perdants, c'est également tous ceux qui ont anticipé un désarmement des proxys iraniens, notamment du Hezbollah. Donc ça, pour moi, ce sont les perdants. Après, on a un accord, pour moi, c'est plutôt un accord économique et toutes les questions géopolitiques, elle reste. L'uranium.
Oui, on a 60 jours pour négocier, là.
Voilà. Ouais. Et donc, c'est un accord, mais on est loin, pour moi, d'avoir une stabilité politique sur la région. Si c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on va atteindre au bout de 60 jours, j'en doute.
Bon, après, je veux qu'on décline les conséquences économiques. Sur les taux, là, on soulève la question, la décision de la BCE, effectivement, qui a décidé la semaine dernière d'augmenter les taux de 25 points de base. Est-ce que c'était une erreur? Comme
fondamental,
le dit Guillaume Patrinal.
Grosse erreur.
Pour moi, on l'anticipait dans notre scénario, mais oui. C'est pas forcément la meilleure des idées, parce qu'une hausse des prix, c'est pas de l'inflation. Oui, je suis d'accord, on va avoir une hausse des prix sur l'énergie qui va se répercuter après sur l'ensemble de l'économie, mais de l'inflation, c'est une hausse des prix généralisée et soutenable. Et
moi, là, on a un choc de prix, hein, c'est ça. C'est bien faire la différence entre ce qui est un choc de prix, la hausse du pétrole qui peut effectivement se propager à différentes matières transformées, mais c'est pas de l'inflation, ça ne s'est pas transmis au salaire, c'est
ça. Pour l'instant, et même la BCE a quand même souligné que oui, il y avait une hausse des prix, que ça allait sûrement toucher d'autres segments de l'économie, mais qu'on avait peu d'effets de second tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde sur le marché du travail, je pense que les dernières nouvelles sur le marché du travail en France qui sont tombées ce matin, elles sont mauvaises. Hein, c'est mauvaise pour l'ensemble de l'Europe d'ailleurs. Un marché du travail qui est vraiment pas en bon état, enfin, je dirais qui est en train de se détériorer. Des croissances sur les salaires, on n'est absolument plus sur la même croissance de salaire qu'on avait avant le Covid. Et puis, les niveaux de taux sont différents. Ça, c'est important, on le répète pas assez. Les niveaux de taux sont différents avec début 2022. Début 2022, quand la BCE a commencé à monter ses taux, le taux de dépôt de la BCE en territoire négatif, à moins 0,5. Les taux longs réels, c'est-à-dire les taux longs, si on exclut les effets de l'inflation, vraiment le coût de financement de l'économie. Le coût de l'argent, il était en territoire négatif. Maintenant, je considère...
Gagner de l'argent à s'endetter, pour faire
exactement.
Simple.
Aujourd'hui, on a taux de dépôt
de monde.
À 2,25, donc on a eu plus 25. Et surtout, les taux longs réels sont, pour moi, sur des niveaux restrictifs pour des pays comme la France ou l'Italie. Donc vraiment, on n'est pas dans le même contexte pour le marché du travail, on n'est pas dans le même contexte pour les taux, et on est aussi face à, pour moi, des problèmes structurels en Europe, ça c'était les mêmes qu'avant, mais où on doit investir. Donc honnêtement, la BCE
a contre le temps.
Terrain, et sur le terrain, on a une crise majeure du BTP, le nombre de nouveaux logements qui sont mis en chantier, etc. Tout ça, c'est à l'arrêt. Oui. Tout ça, c'est très sensible à un élément, les taux d'intérêt. Et donc, on est en train de remettre encore un coup de massue sur une économie qui est franchement aujourd'hui très fragile. En Allemagne, ça ne se passe pas mieux. Franchement, on attend une BCE qui soit derrière l'économie et pas aller chasser un point d'inflation.
Son mandat principal reste la stabilité des prix quand même. C'est toujours le débat entre la BCE. Valentine, puis Guillaume.
Je vais rajouter l'ancrage des anticipations d'inflation à moyen terme. C'est ça surtout son mandat, c'est que les acteurs économiques soient confiants qu'à moyen terme, l'inflation soit à 2%, pas en dessous.
Sauf... On dit toujours, son mandat, c'est l'inflation. Ils ont pratiqué un truc qui s'appelle le quantitative easing.
Oui.
Excusez-moi, c'était pas
sans
de la
que
lutte
ce
contre
soit
l'inflation.
Dans sa oui.
Donc ils ont quand même acheté. Non, mais relaxons-nous.
Non, mais
la
ça
BCE, elle
pas
est capable d'être intelligente de temps en temps. L'Europe, elle a besoin d'un vrai coup de pouce aujourd'hui pour investir dans l'IA. Il faut soutenir les entreprises, il faut soutenir le BTP, il faut construire des logements pour les jeunes. Il y a un moment donné, on attend autre chose de la BCE.
Et il y a vraiment un point, parce qu'on dit, oui, c'est déjà anticipé par le marché, donc ça ne va pas vraiment impacter les entreprises. Oui, c'est déjà, pour moi, dans les prix, pour toutes les entreprises qui ont accès au financement de marché. Mais pour les petites entreprises qui se financent à taux variable, cette hausse de taux, elle va lourdement peser sur leur coût de financement. Hein. Donc, non, elle n'est pas indolore, cette hausse de taux de la BCE.
Est-ce qu'on peut revenir en arrière, Anne-Sophie Alsif? Le pétrole va très certainement baisser, même s'il reste autour des 80, 85, enfin sous les 84 là. Parce qu'on attend de voir aussi combien de bateaux vont pouvoir passer. Est-ce qu'on va véritablement signer un accord vendredi? Enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup de questionnements.
Je pense qu'on doit faire assez attention et regarder toujours ce qui s'est passé dans le passé quand on a ce type d'accord. Certes, en effet, là, il y a un signal positif sur les marchés, mais ce n'est pas un accord qui est définitif. Et même si, en effet, on a une baisse des prix de l'énergie, comme on l'a dit, il n'y a pas que le pétrole et gaz. Vous avez énormément d'autres matériaux qui ont eu des hausses excessivement importantes, y compris les engrais, y compris dans l'agroalimentaire. Donc, encore une fois, cette diffusion de l'inflation aux biens manufacturiers, on l'a vu dans toutes les crises, hein, historiquement, c'est tout à fait important, surtout pour une Europe qui est quand même assez spécialisée et assez dépendante, hein, en termes stratégiques, de tous ces matériaux-là. Donc, je pense que c'était ça l'objectif, c'est vraiment de casser ces anticipations, notamment aussi sur les biens manufacturiers, avec une hausse, vous l'avez dit, qui existe, mais qui reste quand même limitée, hein, on parle de 25 BP, en effet. Vous l'avez dit, sur le financement des entreprises, ça a un impact qui n'est pas forcément positif. Et en effet, quand vous avez ce genre de choc, c'est le pire pour une banque centrale parce que c'est un choc exogène. Oui. Donc le but, la conséquence, ça peut être de casser la croissance. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, pour la banque centrale, le but, c'est vraiment de casser ces anticipations d'inflation. On parle d'un accord qui est très fragile. Si dans 2-3 mois, on a de nouveau un détroit d'Hormuz qui est bloqué, on se dira, ah bah peut-être qu'en effet, on a bien fait de faire cette légère hausse. Donc là aussi, je pense qu'il faut être assez prudent et peut-être attendre plusieurs mois avant de faire l'évaluation.
Une des conséquences majeures aussi, c'est qu'il semble que dans cet accord, pour l'instant signé uniquement numériquement, on verra encore une fois vendredi ce qu'il y a véritablement dans le fond, mais il y a l'instauration d'un péage, Guillaume Poitrinal, qui est un changement...
Et qui sera peut-être inflationniste, puisque
majeur.
Les entreprises vont payer, et à un moment, il faudra que cet argent soit peut-être se traduise par des augmentations.
Nous, les Français, il faut qu'on fasse l'inventaire de ce qu'on pourrait avoir comme détroit, en fait.
Un péage au Havre, par exemple. On est le deuxième domaine maritime mondial.
Enfin, je ne sais pas, il faudrait faire des calculs.
Quelques taxes à récupérer.
Mais je pense que les États vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de péage, parce que la contamination, elle peut être absolument considérable. En plus, il y a quand même un problème de droit international, parce que normalement, il y a quand même des conventions qui interdisent de prendre des péages sur ce type de détroit. Et puis la moitié du détroit appartient à Oman. Personne ne parle d'Oman. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucun journaliste qui sait que la moitié du détroit appartient à Oman et que la plupart des grands pétroliers passent d'ailleurs dans les eaux territoriales omanaises, en fait. Donc, pour moi, ce truc-là, il est assez inextricable. Mais c'est pas un canal, hein, c'est un détroit. Donc on pourrait faire Gibraltar, à mon avis, ça peut être très très gagnant pour le Maroc et l'Espagne.
Il y en a quelques-uns, oui. Oui.
Je pense que le risque, c'est que ça donne des idées à d'autres et qu'on bascule dans ce risque souligné par Anne-Sophie, c'est qu'il y a une inflation sur les coûts de transport et qu'on reste encore dans cet environnement à cause du risque géopolitique, des chocs exogènes sur l'inflation.
À mon sens, pour finir, l'élément qui est absolument central, c'est de continuer en Europe la décarbonisation et l'électrification. Quand vous regardez la carte du monde, on aura plein d'autres conflits énergétiques sur les énergies fossiles. Quand vous voyez où c'est localisé, ça va continuer puisque les régionalisations de chaînes vont s'accélérer avec la Chine, avec les États-Unis. Donc, on aura plein d'autres conflits. Il ne faut pas, parce qu'on a une baisse du pétrole importante, tout d'un coup, abandonner l'électrification où la France, l'Europe, a une véritable valeur.
On voit que le signal prix a été terriblement efficace sur l'électrification,
sur la vente de véhicules. Donc il faut continuer. Ce n'est pas parce qu'on a cet accord qu'il faut arrêter ce plan d'électrification. Un plan d'électrification, c'est 10-15 ans. Hein. C'est ce qu'ont fait les États-Unis, c'est ce que font la Chine. Donc c'est sur du long terme. Et il ne faut pas que, parce qu'en effet, on a cet accord ou qu'on ait des variations de prix du baril du pétrole, eh bien, qu'on remette en cause une politique d'électrification de long terme où la France, en plus, a un avantage comparatif premier.
Bon.
Et si je suis vraiment d'accord. Et si on regarde pour l'impact quand même de ce conflit, de cette fermeture du détroit d'Ormuz, a quand même un impact assez faible hein, sur les prix du pétrole. On parlait quand même.
Mais incroyable.
Enfin, de 20%.
On imaginait au moins pas un baril à $150 avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Pourquoi la catastrophe n'a pas eu lieu?
Je pense qu'un des facteurs importants. Bon, déjà la Chine avait beaucoup de réserves, mais la Chine est très en avance sur cette électrification et je pense va vraiment aller dans cette direction, électrifier son économie et beaucoup, beaucoup moins dépendre à cette région du Moyen-Orient.
Il faut déjà regarder les chiffres. Hein. C'est vraiment le Covid qui a été un élément absolument central. Vous aviez eu un boom des investissements verts partout, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. En Chine, vous l'avez dit très justement, c'est la première zone où on investit en décarbonation. Donc là, les investissements sont colossaux. Les États-Unis, il ne faut pas se fier à la communication. Regardez les chiffres et l'investissement en Californie, au Texas. Ouais, vous investissez beaucoup plus en décarbonisation. Donc voilà, il y a la communication et il y a les chiffres. Donc il faut continuer. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, avec l'intelligence artificielle, ont besoin de l'électrification, ont besoin d'autres sources. Ils n'ont pas d'autres moyens. La Chine, c'est exactement pareil. Donc nous, il faut vraiment être décorrélé de ces crises pétrolières et de continuer d'investir massivement. Et pourquoi on ne pouvait pas avoir $150 de baril au niveau du pétrole ? Parce que quand vous regardez la consommation de pétrole, quand même, depuis 10 ans, elle baisse. C'est ça l'idée, c'est qu'on
la
a
demande
une électrification,
ne porte plus le
exactement,
marché.
Qu'on a quand même une électrification, une diversification qui existe. Et aujourd'hui, justement, bah regardez l'Europe, hein, on est beaucoup moins dépendant de cette zone qui a encore quelques années. Bon, les États-Unis plus du tout, ils dépendent que du Canada et de la Colombie. La Chine totalement diversifiée avec l'Afrique. Donc c'est fini, on n'a plus ces dépendances extrêmes qu'on avait pendant les chocs
pétroliers. Enfin, on reste avec une énergie carbonée à 80% autour
on
de la planète.
Hein. Et c'est pour
après,
ça que comme
le
on
pétrole,
a pris...
ça reste 80%
non, mais comme
de
on a un prix marchand,
la production énergétique
pétrole,
mondiale.
C'est pour ça. Mais en tout cas, de la demande, on est déjà en mars dans la diversification des énergies. Donc il faut absolument continuer. Et encore une fois, l'Europe a un avantage comparatif.
Ce qui fait le prix du pétrole, c'est l'unité marginale. Ça. L'utilité. Mm. Et ce qu'on peut voir, c'est que oui, il y a une demande qui baisse parce que électrification, parce que toutes les grandes économies essayent de réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Et qu'en même temps, on peut avoir les pays producteurs qui essayent de monétiser de plus en plus leurs réserves avant la transition énergétique.
Exactement.
Donc, on peut vraiment se retrouver. Alors, je parle pas pour les 6 prochains mois, hein, parce que bon, le temps que tout se remette. Mais on peut vraiment se retrouver post-conflit dans un environnement où le prix du pétrole soit beaucoup plus bas.
Bon.
Tout à fait. Et là, ça doit vraiment pas arrêter nos efforts de continuer dans cette direction.
Surtout pas.
Avec un baril sous les $60, possiblement.
Alors faisons attention parce que là aussi pour les prix de l'énergie, je disais, il n'y a pas que le pétrole, hein, il faut regarder toutes les énergies. Hein, il y aura un effet aussi
pétrole,
rattrapage.
Gaz.
Exactement, donc il faut faire attention. Et puis vous l'avez très justement dit, il peut y avoir aussi un risque de contrôle de la production pour garder un niveau de prix aussi assez élevé vu les coûts aussi de ces conflits ou pas.
Une dernière question aux deux économistes. Je veux pas.
J'écoute.
Désolé, Guillaume, cher Guillaume, vous pourrez peut-être donner votre avis sur le marché de la construction immobilière, peut-être, mais ça aidera. Mais est-ce que la France rentre en récession après
ce choc? C'est mon petit précaré, le reste.
Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances cet été avec un prix à la pompe qui aura très nettement baissé? Voilà. Est-ce qu'on a de bonnes nouvelles qui arrivent quand même?
Oui. Les dernières nouvelles sont bonnes. Et vont quand même dans le sens d'une réduction de ce risque d'avoir une récession en France. Quand même.
Complètement. Et comme énormément de Français sont passés aussi aux véhicules électriques ou décarbonés, eh bien en effet, ils sont beaucoup moins averses à l'augmentation des prix du baril. Donc là aussi, on voit qu'une proportion plus importante de Français est protégée par cette électrification.
Bon, et donc les coûts de la construction vont baisser.
Je suis d'accord sur tout. Non, les coûts de la construction c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a un effet de latence en fait. Il y a un effet post-augmentation du prix de l'énergie qui se ressent généralement.
Vous l'avez senti là ou pas? C'est commencé à arriver au mois de mai.
En fait, il y a deux tendances. Il y a une tendance dépressive qui est juste que le carnet de commandes des entreprises du bâtiment est en chute régulière là.
Ça continue.
Ils nous disent tous 2027, j'ai quasiment plus rien. Donc en fait, c'est très long.
Ce que vous nous disiez, on était sur une queue de comète. Vous aviez des commandes qui se terminaient, mais qu'il n'y avait rien qui arrivait.
Voilà. Et puis dans le même temps, il y a une inflation quand même malgré tout sur les matériaux. Il y a une inflation sur l'acier, il y a une inflation sur le ciment, il y a une inflation, voilà. Donc sur le bois ça va, donc encore on arrive à se fournir en bois. Ça va être la même histoire en fait. On va finir avec un monde décarboné, avec de l'électricité, j'espère nucléaire au maximum,
propre au maximum.
Je le dis ici, toutes les places de village devraient avoir la place Mesmer.
Oui.
Cet homme formidable.
Pour le plan de développement, le premier plan de développement nucléaire.
84 a équipé la France de 30 réacteurs. Nucléaire. Et je rappelle que ensuite, on les a équipés jusqu'en 2001, jusqu'à Civaux. Et ensuite, après, on s'est arrêté pendant 18 ans ou 20 ans. Et ça a été, et c'est
on a
notre
perdu
grande
les
peine. Et là, il faudra un jour que les politiques rendent compte de tout ça. Parce que on avait une chance formidable, on avait une avance formidable sur le nucléaire. Et on l'a perdu. Il faut espérer qu'on la récupère, qu'on récupère ce retard. Il faut que EDF mette les bouchées doubles et qu'on arrête de nous expliquer qu'il faut 20 ans.
On a relancé un peu la machine avec la PPE.
Il faut 20 ans et là on arrive à une question magistrale et la question essentielle de l'époque, c'est le temps. Et c'est la maîtrise du temps. Il va falloir qu'on puisse construire des centrales nucléaires plus rapidement parce que l'énergie, ça va être le vrai sujet à l'avenir.
Oui, évidemment.
À cause de l'IA.
Évidemment. 15 gigas de demande, je crois avoir lu ça cette semaine. On va avoir besoin de 15 gigas. Un réacteur, c'est à peu près 1 giga.
De l'eau aussi.
Donc, c'est et pas mal d'eau pour rafraîchir effectivement tout ça, mais on n'est pas trop mal placé.
On est pas mal placé.
Allez, je voulais qu'on parle budget. On va commencer à parler budget avec ce rapport de l'Institut des politiques publiques qui a été publié hier. En fait, l'IPP le fait chaque année, une grande série de notes sur le budget. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants du dernier PLF. Vous avez toute une série d'études, y compris sur les retraites. Passionnantes, toujours passionnantes les études de l'IPP, qui indiquent que le problème n'est pas seulement de savoir qui affiche le déficit entre l'État, la Sécu ou les collectivités locales. Mais qui décide de la dépense? Qui maîtrise la recette? Et finalement, qui est responsable, j'ajoute, de ce marasme? Parce qu'on est quand même très très loin du rétablissement des comptes. Anne-Sophie Alsif, vous avez eu le temps de regarder ces différentes études?
Oui, donc en effet, c'est vrai que c'est assez intéressant. On a vraiment des fiches qui expliquent, qui donnent aussi des pistes d'amélioration, des constats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup aider. Après, pour revenir
on
à ce fameux... On l'espère.
On n'est pas sûr.
5% de déficit. À mon sens, le problème qui n'est pas souligné, qui est absolument fondamental, c'est comment est structurée l'économie française. Et l'économie française est structurée à plus de 60% en termes de contribution de la croissance par la consommation des ménages. Après, en effet, vous avez l'investissement. Après, vous avez la contribution au commerce extérieur. Donc, c'est vraiment la consommation des ménages qui est absolument
le premier moteur de la
essentiel.
Croissance française.
Et donc, ça, c'est très important de le savoir, puisque une grande partie de la politique budgétaire se base là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a eu, en effet, le quoi qu'il en coûte. C'était quoi le pari du quoi qu'il en coûte? Au début, il a été très efficace. On rappelle, on a été l'un des seuls pays à ne pas être en récession au tout début de la crise Covid. Mais après, en effet, elle a été assez large. Et le gouvernement se disait, ou les instances à l'époque, bah voilà, on va continuer de faire du quoi qu'il en coûte. Ça va se transformer en consommation. Et donc en point de PIB, et donc finalement, eh ben, grâce à la croissance, on va éponger
ce modèle keynésien, quoi.
Exactement, ce qui fonctionne très bien en France, hein, il faut le dire, par rapport à d'autres pays. Malheureusement, comme on a eu en effet les crises inflationnistes, ça s'est transformé en épargne. Et c'est ça, en vrai, le vrai sujet du système de croissance française, c'est se dire bah, peut-être qu'il faudrait penser à rééquilibrer la place de la consommation des ménages au profit de l'investissement, comme vous l'avez très justement dit, pour justement, un, plus diversifier son économie, c'est-à-dire que comme ça, on est moins dépendante de la consommation des ménages seulement, et puis aussi pour inciter les politiques publiques, lorsqu'ils mettent en place des politiques de relance, et bien beaucoup plus c'est sur l'investissement productif qui demande du long terme, et forcément, quand vous n'avez pas de retour sur la croissance immédiate, bah, vous avez moins d'incitation politique à le faire que la consommation des ménages. Et donc, c'est vrai que ça aurait été aussi intéressant d'avoir dans ces éléments, de se dire, bah, voilà, si on avait, par exemple, une contribution de l'investissement à 30-35%, quelle valeur ajoutée ça pourrait créer. Et ça, ce serait un élément qui serait plus intéressant, enfin, en tout cas, qui serait complémentaire à, en effet, la vision de gestion du déficit, puisque là, en fait, on gère le vide, on gère
l'attrition.
L'attrition, voilà.
Au fur et à mesure.
Qui va payer l'État, les collectivités territoriales, alors qu'il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de réductions, État, collectivités territoriales, enfin, surtout l'État, sur la réduction des dépenses. Donc, à un moment, c'est compliqué aussi, sur l'État en tout cas.
Valentine Hénouz, puis Guillaume.
Oui, je pense que l'idée de soutenir la croissance toujours en soutenant la consommation, est-ce que c'est quand même une bonne idée? Parce qu'au final, oui, ça marche. Alors ça marche à très court terme, c'est d'une efficacité redoutable. Hein. Ça nous permet d'avoir...
Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que c'est l'État qui peut soutenir le pouvoir d'achat des Français?
À moyen terme, on se rend bien compte que le résultat, ben, c'est simplement qu'on a des niveaux d'endettement plus élevés. Le problème aujourd'hui, c'est que si on regardait entre 2008 et le Covid, oui, on continuait de soutenir notre croissance avec de l'endettement, mais on était dans un environnement de taux bas. Là, le vrai sujet le Covid, c'est qu'on soutient notre croissance avec de l'endettement, mais on est dans un environnement de taux plus élevé.
Et oui, ça commence à coûter cher.
Ça commence à coûter cher, et surtout, ben, on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, bon, c'est encore soutenable, hein, l'idée, mais qu'à terme, dans quelques années, ce mode de fonctionnement ne sera plus soutenable. Donc, il faut trouver un nouveau schéma. Et le nouveau schéma, il n'y en a pas 36. Hein. C'est d'investir. c'est d'investir, d'avoir des gains de productivité et d'avoir une consommation qui soit non pas soutenue par de l'aide de l'État, mais qui soit
par des primes d'activité,
par
oui,
des gains de productivité, une capacité des secteurs où il y a des capacités à augmenter les salaires. Et ça, c'est pour moi un mode de fonctionnement beaucoup plus sain pour soutenir la consommation. Oui. Mais ça demande une phase où, eh bien, on investit et on change notre façon de penser.
Guillaume.
Moi, je l'ai déjà dit 20 fois ici sur ce plateau.
La répétition est le premier pilier de la pédagogie, Guillaume Poitrinal.
Eh bien, on y va. Il y a eu un moment donné où nos hommes et nos femmes politiques ont perdu la tête, elles ont perdu la raison. Ils se sont dit, les taux d'intérêt sont négatifs, donc plus j'emprunte, plus je m'enrichis. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Manque de bol. Au bout d'un certain temps, eh bien, cet emprunt, il va falloir le rembourser. C'est-à-dire que toute dette publique est remboursable à la fin. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le refinancer.
Mais on rembourse jamais la dette.
Mais bien sûr,
qu'est-ce qu'on fait tous les
laïcs? Non, mais tout ce stock de dette que nous portons avec les fameux 1000 milliards de plus, etc., donc les 3 400 milliards de dette, tout ce stock de dette va devoir être financé. Et quand on prend de la dette, même si on prend de la dette pas chère, et je le suis chef d'entreprise, on doit se poser la question des conditions de refinancement de la dette quand sera remboursable. Elle sera remboursable, l'OAT disant, au bout de 10 ans, il faut la rembourser, et donc tirer sur une nouvelle source d'OAT. Et ce qui se passe en ce moment, c'est la gueule de bois. Pourquoi? Parce qu'on le sait, 3 400 milliards de dettes à 5%, ça fait 170 milliards d'intérêts. Aujourd'hui, la balance, elle est à 50. Ça veut dire que si nos taux d'intérêt réels continuent là où ils sont, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, ils resteront beaucoup plus élevés que le taux de l'emprunt courant, puisqu'on a la chance d'avoir des vieilles souches d'il y a 4 ans ou d'il y a 5 ans, eh bien, là, il va falloir trouver sur le budget de l'État 100 milliards.
Eh oui.
100 milliards. Attention, là, on rigole plus du tout.
Uniquement pour payer les intérêts de la dette. On est bien d'accord.
Les intérêts du stock de dette. Je ne parle pas de baisser la dette. Là, je parle à dette constante.
Ouais.
Et si on continue à faire du déficit, ce stock de dette va continuer à augmenter. Donc, il y a un problème de pyramide de Ponzi avec cette dette publique. On doit la dénoncer, cette pyramide de Ponzi, et d'urgence avoir des budgets à l'équilibre, d'urgence.
Valentine.
Alors, il y a un scénario très dur hein, que vous venez de dépeindre, mais on a un peu de temps pour agir quand même. Il faut voir que le coût moyen de notre dette aujourd'hui reste autour de 2%. Et notre dette, si le budget n'est pas très bien géré, notre dette, elle, est extrêmement bien gérée, avec une maturité moyenne de 8 ans.
On l'a rallongée, oui.
On l'a rallongée. Et donc, il y a un certain temps avant que ce niveau élevé d'intérêt n'impacte le coût moyen de la dette. Mais chaque année, on a notre coût moyen de la dette qui augmente.
Mais un certain temps, c'est
alors dans 5 ou 6 ans. Non, mais on peut donner
dans
le chiffre.
Dans 5 ou 6 ans, vous serez
si
en mark to market.
Si la dette, c'est 8 ans, quand est-ce que, à partir de quand a commencé à augmenter les taux?
Dans 5 ou 6 ans, vous serez en mark to market. Vous serez à 3,50.
Dans 6 ans. Donc le choc est prévu, on l'aura annoncé, en 2032.
Le choc, on va espérer de prendre des décisions et d'avoir un...
Je pense que là où...
Allez, une note d'optimisme pour terminer.
Voilà, il n'y a pas de sujet sur les chiffres. Mais bon, on est quand même en zone euro, on est à deuxième puissance européenne. On a la Banque Centrale Européenne, donc avant qu'il y ait vraiment un choc, je pense, important, enfin vous allez me dire tout est possible sur la dette, on a quand même des mécanismes, notamment depuis la crise des dettes avec le MES, le mécanisme européen de stabilité, etc. À mon sens, ce qui est très justement dit, c'est l'augmentation de la charge d'intérêt qui a vraiment doublé en l'espace de quelques années.
Eh oui. On est plus qu'à 50, hein, je crois qu'on arrive à 70 milliards là, cette année.
Et ce qu'on a dit précédemment, c'est dans un monde où tout le monde investit, y compris nos partenaires européens, on le voit, espagnol, italien avec le plan de résilience pour l'Europe, 80 milliards, l'Allemagne 500 milliards, eh bien nous, pour payer justement cette charge d'intérêt, on pourra être financé, ça, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, mais ce qui va se passer, c'est que ce sera en effet à des taux plus chers, et donc on va devoir aller encore puiser sur l'investissement qu'on fait moins pour payer cette dette. Et donc on rentre en fait dans ce cercle
vicieux. Une dynamique d'appauvrissement.
Exactement, c'est-à-dire qu'on paie ce que l'on peut avoir comme gain pour rembourser cette dette, au lieu d'investir alors que les autres le font, et donc on perd des gains de productivité et de la croissance. Et c'est là où on continue de se paupériser, d'être en dessous
donc
de la moyenne.
Donc il faut
moyenne, juste en dessous des moyennes.
La seule solution, c'est
l'inflation. Non, mais l'inflation par la demande, parce que choc exogène d'inflation qui est à la fois tape sur la croissance, je ne sais pas si c'est la meilleure idée.
Il faut laisser filer les taux.
Encore une fois, baisser les taux.
Il faut
gérer. Non, c'est juste avoir une approche plus mesurée sur le sol.
Augmenter les gains de productivité. Oui, et aujourd'hui, les résultats, il faut quand même le dire, hein, c'est un résultat qui est tout à fait factuel, c'est qu'on est en dessous de la moyenne des pays de la zone euro pour le PIB par tête.
Et oui.
Ça pauvre.
Pour augmenter les gains de productivité, il faut mettre davantage de monde au travail. On va en parler dans une seconde avec la réforme des retraites, le grand sujet de la présidentielle 2027, évidemment. On va voir que de plus en plus de candidats proposent de supprimer l'âge légal, un peu lurtiquant autour de cette réforme. On va voir si c'est une bonne idée avec les experts et puis on reviendra en fin d'émission sur le rapport parlementaire sur les fonds vautours. On va voir ce qu'en pensent aussi mes invités du jour. Ne quittez pas, on se retrouve dans une minute.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h03. Vous êtes toujours en direct sur BFM. C'est les experts avec aujourd'hui Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France et professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Guillaume Poitrinal, fondateur de WO2, promoteur immobilier bas carbone. Et Valentine Hénouz, responsable de la stratégie taux chez Amundi. On va parler un peu dans la suite du précédent thème, des finances publiques, l'éléphant dans la pièce, on le sait, c'est évidemment les retraites, première dépense et de loin en France, un quart de la dépense publique. Anne-Sophie, vous disiez avant la coupure pub que le sujet pour le rétablissement des comptes publics, c'était évidemment aussi d'augmenter les gains de productivité pour réduire la dette, réduire les déficits. Bon, on sait que si on avait le taux d'emploi de l'Allemagne, on le dit et on le répète aussi sur cette antenne, la France n'aurait plus de problème de déficit, à la fois chez les jeunes et chez les seniors, qui sont les deux grands pans qui pêchent dans ce pays. Bah, ça nous ferait 140 milliards de recettes supplémentaires. C'est exactement le montant du déficit actuel. Alors, le débat qui monte, moi, c'est ce qui m'intéresse ce matin, c'est sur la suppression ou pas de l'âge légal de départ en retraite. Ça a été l'irritant en 2018-2019. Édouard Philippe l'avait imposé dans la réforme Macron. Les Français ont dit non, pas de report de l'âge légal. C'est ce qui bloque. Alors, pour contourner le sujet, Gabriel Attal et Jordan Bardella proposent tous les deux de supprimer cet âge légal. Il dit, écoutez, faites comme vous voulez, liberté aux Français, vous cotisez peu, vous aurez peu de retraite, vous cotisez beaucoup, vous aurez davantage de retraite. Est-ce que c'est une bonne idée, Anne-Sophie Alsif?
Alors, déjà, il faut aussi toujours, sur ces questions, regarder ce que les autres ont fait, hein, puisqu'on est tous confrontés en Europe à ces problèmes de vieillissement de la population et de financement de la dépense publique.
Oui, on est les seuls à ne pas faire de réforme.
Tous les autres pays européens ont un âge, pour la majorité, de départ à la retraite. Et pourquoi c'est important d'avoir cet âge? Parce que ça permet d'avoir un signal, notamment sur le fameux taux d'emploi. On l'a vu, hein, quand on a fait la réforme des retraites, les dernières réformes, on augmentait à chaque fois l'âge légal de départ. Et tout de suite, vous aviez un effet mécanique d'augmentation du taux d'emploi, notamment sur les 55-64 ans, dès que vous avez un report de l'âge légal. Pourquoi ? Parce que ce soit les entreprises, les agents économiques, que ce soit même dans le public partout, c'est un signal qui vous permet d'organiser le monde du travail, vos recrutements, vos départs en retraite. Donc c'est un signal temps, on va dire, hein, même de prospective, qui est important, pas qu'en France.
Structurant.
Également dans les autres pays. Après, ce qui peut se faire, on le voit dans les pays nordiques, vous pouvez avoir un âge légal de départ et ensuite avoir beaucoup plus de mécanismes pour rester en emploi. C'est-à-dire avoir des mécanismes où vous pouvez travailler à temps partiel. Ça se fait beaucoup en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, en effet, vous avez un taux d'emploi qui est beaucoup plus élevé, mais très peu de gens à 70 ans travaillent toute la semaine à temps plein. Vous avez beaucoup plus de mécanismes une fois que vous êtes parti à la retraite, pour continuer à travailler, et qui sont mixtes, et qui permettent d'aller à la retraite totalement progressivement en restant dans l'emploi. Et bien évidemment, ces mécanismes, quand vous restez dedans, vous payez des taxes, des impôts, et donc en effet, plus de recettes fiscales. Donc à mon sens, c'est beaucoup plus là-dessus qu'on peut aller. Un âge de départ qui permettra d'augmenter le taux d'emploi, et puis davantage de mécanismes à côté pour pouvoir faire que les gens restent en emploi s'ils veulent. Il faut le rappeler, un âge effectif de départ, c'est plus de 63 ans parce que les gens veulent rester plus tard.
C'est le cas aujourd'hui, on est à 62,9, je crois.
Exactement, pour des histoires de pouvoir d'achat, parce que les gens veulent bien sûr peut-être partir, mais avoir toujours du pouvoir d'achat. Donc ça peut tout à fait marcher, en tout cas c'est ce que les autres pays européens ont fait.
Ouais, alors en fait, ça revient à l'histoire de la retraite à points, quoi. Tu vois, à la fin, c'est-à-dire on a cotisé tant, on a touché tant, etc. Après, âge minimum, il existe quasiment partout, en fait, l'âge minimum. Je me suis toujours posé la question de savoir.
Et donc,
pourquoi.
C'est qu'on en a besoin.
Une fois, j'ai posé la question au président du MEDEF, qui m'a expliqué qu'en fait, si on voulait une réforme réellement efficace, il faut pousser l'âge minimum. Et en fait, en supprimant la question d'âge minimum et en disant, en fait, bah, vous aurez la retraite, vous pouvez prendre votre retraite quasiment quand vous voulez, mais à ce moment-là, ça sera une toute petite retraite si vous partez tôt, une plus grosse retraite si vous partez tard, à vous de choisir. Il m'a toujours expliqué qu'en fait, ça avait quasiment aucun effet. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais moi, intellectuellement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de laisser de la liberté aux gens, de s'organiser. Bah, y a des gens qui vont partir plus tôt avec une plus petite retraite, il y a des gens qui vont partir plus tard.
Oui, parce qu'on peut avoir du capital, on peut avoir hérité, on peut avoir d'autres
ressources de revenus. Il y a tellement de situations. Et puis, la dernière chose que je note, c'est qu'il y a un impératif, c'est quand même trouver une solution à cette situation française très très particulière, et donc le coût des retraites qui s'accroît parce que on a de moins en moins de cotisants, parce qu'on n'a pas fait la retraite par capitalisation, parce que il faut trouver une solution. Or les Français, ils ont l'âge de la retraite en ligne de mire, donc peut-être qu'en supprimant cette idée d'âge de retraite, on pourrait faire les réformes qui de toute façon vont s'imposer.
Après, ce qu'on entend beaucoup, c'est que s'il n'y a plus d'âge légal, il y a quand même un minimum de durée de cotisation pour garantir l'équilibre, et que la durée de cotisation pénalise les carrières hachées, et notamment les femmes qui se sont arrêtées de travailler quand elles ont eu des enfants, Valentine et nous.
Ouais, je pense que c'est vraiment contourner le problème de supprimer.
Non, mais on cherche justement, on voit le blocage français face à cet âge légal.
Je trouve l'idée d'Anne-Sophie assez intéressante, que l'âge de minimum de départ à la retraite, c'est quand même un signal qui est donné sur le marché du travail. Vous allez quand même devoir travailler jusqu'à tel âge. Après, ça n'empêche pas aux gens d'avoir leur liberté personnelle et de prendre leur retraite plus tôt. Après, il faut quand même, pour moi, on a véritablement aujourd'hui un problème de financement des retraites. Mmh. Aujourd'hui, on parle de l'âge à la retraite, mais il y a des solutions qui sont multiples, qui sont augmenter les cotisations, réduire les pensions de retraite, allonger l'âge de départ à la retraite. Ou moi, une des solutions que je trouve plutôt par le haut et que je préfère, c'est introduire aujourd'hui une part plus grande de financement des retraites par capitalisation.
Oui.
Je pense que pour moi, c'est une des solutions.
Est-ce que c'est pas ce qui est exactement en train d'être fait avec l'explosion des PER, des plans épargne retraite, 15 millions depuis 2019?
Parce que ça répond à un double problème. Aujourd'hui, on parlait quand même toujours ce problème de manque d'investissement en Europe. Et quand on regarde le patrimoine, les actifs des... Alors, c'est absolument pas qu'un problème français. Pour moi, c'est un problème européen. Mais quand on regarde les actifs des ménages européens, 70% on est sur de l'immobilier, 30% on est sur des financiers. Aux États-Unis, c'est tout simplement l'inverse. 70% sur du financier, 30% sur l'immobilier. Parce que le ménage américain, dès son plus jeune âge, c'est un investisseur qui doit réfléchir à sa retraite, à très long terme évidemment, et il doit investir dans l'économie sur du long terme. Et c'est ce qui nous manque en Europe aujourd'hui, des financements actions de long terme. Donc pour moi, la sortie par le haut de ce sujet épineux qui est le financement des retraites, il n'est pas unique, il y en a plusieurs, et je pense qu'on va devoir jouer sur tous ces créneaux, et c'est aussi augmenter la part de financement des retraites par capitalisation.
Ça dit aussi quelque chose de notre rapport au travail. Davidia nous dit au Danemark, l'âge de départ est de 70 ans, mais l'organisation du travail est plus souple.
Oui, exactement.
Fin de journée à 16 heures, beaucoup de télétravail. C'est un système basé sur la confiance et non sur la méfiance, comme en France. On a un rapport particulier au travail en France?
Non, pas particulier. C'est juste qu'on a une structuration de la manière de travailler qui a été juste différente. Quelle a été-t-elle? On a eu, en effet, les 30 Glorieuses. On a été un des pays fondateurs à avoir, en effet, le plus de croissance après la guerre. Et dans un contexte où, en effet, vous partiez tôt à la retraite parce que vous viviez beaucoup moins longtemps à la retraite. Donc déjà, il faut le dire, de vivre très longtemps en bonne santé, c'est déjà une bonne nouvelle.
Oui.
Et ça montre qu'on a eu un système qui a très bien fonctionné. Donc ça, il faut quand même s'en réjouir plutôt que de voir l'aspect positif, négatif. Donc ça, c'est quand même bien. Et l'autre élément, c'est qu'en effet, dans ces années-là, à 60, c'était déjà très tard puisqu'on restait très peu de temps à la retraite en bonne santé. Donc l'idée, c'est d'avoir en effet un temps de travail. C'est-à-dire, quand vous regardez la productivité horaire, la France est l'un des pays européens où elle est le plus élevé.
C'est toujours vrai, ça. On reste toujours dans le peloton de tête.
Il y a d'autres pays du Nord qui le sont aussi, mais on est un des pays où on est le plus élevé. Donc en fait, on a une grande quantité de travail, 25-55 ans, où là, vous travaillez très, très, très intensément, avant beaucoup moins et après beaucoup moins. Alors que dans les pays nordiques, c'est sûr que si vous travaillez jusqu'à 70 ans, vous ne pouvez pas avoir cette cadence-là. Donc, vous allez avoir un étalement beaucoup plus important de votre manière de travailler.
Guillaume. Oui, pour avoir travaillé dans 12 pays en Europe et diriger une entreprise qui était dans 12 pays, il est sûr que en France, on a un rapport conflictuel.
Vous l'avez vécu,
dans l'entreprise.
Au sein de votre entreprise,
Bien sûr.
Beaucoup plus qu'ailleurs.
Beaucoup plus qu'ailleurs.
C'est intéressant.
Et on
trouve
beaucoup plus des solutions facilement avec des syndicats allemands, avec des syndicats des pays du Nord, qu'en France. Oui, mais ça, tous les patrons vous le diront. On a ce problème en France.
Mais qu'est-ce qui explique cette conflictualité?
Je crois que les choses sont un tout petit peu en train de... Mais pendant très longtemps, en France, on a pensé que l'entreprise, c'était le lieu d'affrontement entre le patronat et le syndicat.
C'est la lutte des classes.
C'était même, je vais vous dire, quand moi j'étais en quatrième, dans mon premier manuel d'économie, en définition de l'entreprise, il y avait une des définitions qui est l'entreprise, c'est quoi? C'est le lieu d'affrontement entre patronat et syndicat. Définition de l'entreprise. Oui. Donc, il faut quand même savoir d'où on vient. Et ces syndicats qui sont réputés représentatifs, alors qu'en fait, ils représentent très peu aujourd'hui, du point de vue des trucs. Bien sûr qu'on a des sujets de construire et de construction ensemble du dialogue social. On ne peut pas dire le contraire. Et c'est particulier à la France, oui.
Alors, par rapport à ça, le taux de syndicalisation en France, dans le secteur privé, est un des plus bas des pays européens. Et pour répondre à votre question, pourquoi on a une vision totalement différente, des pays comme l'Allemagne ou les pays nordiques ont été totalement détruits après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la reconstruction du pays s'est faite avec les syndicats patronaux et ouvriers. Et donc, l'idée, c'était d'avoir... Comment il fallait refaire absolument tout le pays, puisqu'il n'y avait vraiment plus rien... d'avoir une construction de l'entreprise qui se fasse à deux. Dans ces pays-là aussi dont vous parlez, vous avez été chef d'entreprise dans plus de 12 pays, ces pays-là ont souvent beaucoup plus d'intéressement, ont beaucoup plus de mécanismes de rémunération des salariés qui sont en lien avec la performance de l'entreprise.
Et donc forcément, et de l'actionnariat salarié.
Et l'actionnariat salarié.
Premier investisseur dans Unibail à l'époque, c'était le syndicat des métallurgistes hollandais, qui était dirigé par les syndicats. Exactement. Il faut pas l'oublier. Voilà. Les syndicats. Donc, j'avais au conseil d'administration des syndicats. Mmh. Je peux vous dire qu'ils rigolaient pas avec les coûts.
C'est pas du tout la même structuration. Donc, quand vous êtes intéressé, forcément, vous avez un rapport aussi différent dans la gestion de votre entreprise, ce qui est beaucoup moins développé en France. Mais
pour rebondir sur la Hollande, si on regarde la Hollande, c'est un pays où il y a une culture action beaucoup plus forte que sur le reste de la zone euro. Les pays nordiques et la Hollande, il y a une véritable culture des
actions. Protestante.
Et culture de prise de risque de la part des ménages, qui est totalement différente de ce qu'on peut avoir.
Est-ce que c'est pas lié aussi, nous, à cet énorme ballon qu'on appelle l'assurance vie, qui est dirigé quand même très largement sur les produits de taux pour financer notre déficit? On va revenir à la conversation d'avant. Et finalement, est-ce que c'est pas la pompe à OAT, en fait, qui dérive aussi une partie de cette épargne vers des supports taux plutôt que des supports actions?
Ça joue aussi. Mais si on regarde la retraite par capitalisation, quand on verse des pensions, elles sont immédiatement reversées. Tandis que quand on veut faire de la retraite par capitalisation, on verse des pensions qui, elles, sont accumulées dans des fonds. Donc là, il y a deux schémas qui sont totalement différents. Bon. Donc pour moi, ça joue, oui, c'est besoin de financement de l'État, plus après le mode de financement des retraites.
Ce qui est compliqué, c'est que souvent on refuse la capitalisation en disant il y a un problème d'équité. Le problème, c'est que vous l'avez très justement dit, aujourd'hui les gens font leur retraite ou dans l'investissement locatif ou en ayant en effet des placements à côté pour préparer leur retraite. Donc il y a déjà une forme, on peut dire, d'inégalité si on est sur cette vision-là, qui se crée avec des gens qui vont préparer à côté avec plein de produits qui sont offerts et d'autres non. Et donc l'idée en effet de cette capitalisation, et ça a été fait dans plein de pays nordiques, c'est que tout le monde puisse bénéficier des effets positifs. Et l'autre élément, vous l'avez très justement dit, c'est que ça permettra aussi de financer énormément d'entreprises, dont les fameuses entreprises européennes. On parle toujours du rapport Draghi, de ces fameux 300 milliards qui vont aux États-Unis. Eh bien, c'est vrai que d'avoir ce marché des capitaux en plus, vu le montant de l'épargne, ça permettrait aussi de financer les entreprises en général. Donc, il peut y avoir vraiment un cercle vertueux. Par capitalisation, vous êtes mieux placé que moi pour le dire. L'idée aussi, c'est de dire où on va investir. Alors, on va parler des fameux fonds vautour, mais il y a plein d'investissements qui sont tout à fait robustes, qui financent plein d'entreprises, qui ont une vraie productivité, etc. Donc voilà, on peut être vraiment dans un financement très sain et peu risqué avec une retraite par capitalisation. C'est tout à fait possible.
Ouais. Un dernier mot, Valentine, et puis on va passer au fonds vautour.
Je pense qu'il faut quand même être lucide. Il y a un déséquilibre démographique qui s'accélère. Dans les années 60, on était 4 personnes qui cotisaient, un retraité. Maintenant, on est autour de 1,7 et ce ratio va se détériorer. Donc, il faut trouver des solutions. Il n'y a pas de solution parfaite. Pour moi, c'est un mix de solutions qui doit être trouvé. À part passer à 100% en capitalisation, ça n'a aucun sens. Mais une approche mixte. Il n'en a jamais été question. Une approche mixte, c'est favorable. Et puis après, jouer sur les différentes variables. Mais je dirais, contourner le sujet en disant on va planquer les variables, moi, c'est pas l'approche que je préfère.
Bon, ça marche. On va continuer dans la lutte des classes, puisque Aurélie Trouvé, la présidente LFI de la Commission économique à l'Assemblée nationale, vient de publier un rapport sur les fonds vautours. Je cherche le titre de ce rapport. Voilà. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur, je cite, la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs. Alors on voit que dès le titre de ce rapport, il y a une approche évidemment un peu idéologique par rapport à ces fonds d'investissement. Elle pose aussi une vraie question, c'est-à-dire que les fonds vautours, ça existe aussi quand même. Mais est-ce que globalement, les fonds d'investissement détruisent-ils réellement l'outil productif français ? C'est ce que semble dire le rapport. Ou est-ce qu'ils sont là pour les développer au final ? C'est quoi ? Tiens, définissez-moi un fonds vautour. Premier exercice.
Je ne vais pas m'y livrer.
Pensez contre vous-même.
Très clairement, en fait, on aime bien dans ce pays trouver des boucs émissaires, quoi. Alors, une fois de temps en temps, c'était les fonds de pension, on a eu les fonds de pension, etc.
Et oui, c'est moins gros mot. Non, mais vous avez vu, ça avance quand même.
On aime bien trouver, en fait, d'ailleurs,
là, c'est
une forme de justice primitive à la René Girard, voilà, le bouc émissaire, etc. C'est, comme on sait pas trop, on n'y connaît rien, ça doit être la faute d'eux. Et donc là, nos problèmes, c'est la faute des fonds américains qui font des LBO, donc qui utilisent beaucoup de leviers, ça fragilise les entreprises, etc., etc. Bon, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont sous LBO, je ne sais plus au combienième LBO on est chez Picard Surgelé ou dans le truc, mais oui. Il y a des entreprises qui vivent très bien sous LBO, qui font de la croissance, qui investissent, parce que, en fait, pour gagner des sous avec un LBO, il faut faire de la croissance, manque de bol, quoi.
Elle définit ce qu'est un fonds vautour, c'est que c'est celui dont la stratégie vise à extraire des entreprises qui l'acquièrent une valeur déraisonnable, ce qui conduit à affaiblir structurellement cette entreprise, et ce qui induit évidemment des emplois détruits, des dettes alourdies et des outils de production à l'abandon. Est-ce que c'est ce qu'on constate parfois ?
Non. Enfin, moi, c'est pas, en tout cas, je vois pas ça comme ça. Et par contre, ce qui manque, c'est du capital de long terme. Exactement. Là, on est tous d'accord. Il manque des fonds de pension. Ça, je veux dire, il manque des fonds de pension en France. Et le CAC 40 travaille, le SBF 120 travaille pour des investisseurs étrangers. Et là, il y a beaucoup de PIB, beaucoup de création de richesse, oui, made in France, qui est exportée pour aller assurer le bien-être des retraités californiens, oui, de CalPERS ou de PGGM ou d'APG en Hollande.
Ça veut dire que la France est devenue trop dépendante des capitaux étrangers. Là, vous soyez d'accord avec ce qui est dit dans le rapport. Hein, c'est que pour défendre notre souveraineté, on a besoin de capitaux, bon, français ou européens. Oui, Valentine Hénouz, puis Anne-Sophie Alti.
Oui, et puis ce qu'on peut regarder, c'est pourquoi ces fonds vautours, peut-être les niveaux de valorisation sont un peu plus attractifs. Oui. Peut-être que ces entreprises, elles retombent sur les mêmes sujets, ont des problèmes de financement, n'arrivent pas à trouver du financement. On voit aujourd'hui que le financement bancaire, l'accès au financement bancaire, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, on rappelle que c'est quoi, 70% du financement en France, le financement intermédiaire.
Oui, on est sur ces ordres de grandeur, ce qui est inversement à ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, l'essentiel du financement des entreprises passe par les marchés. Donc, et puis après, on n'a pas des marchés financiers qui se sont développés comme aux États-Unis
sur la
dette privée, sur les fonds privés pour investir dans ces entreprises-là. Donc on retombe sur les mêmes sujets, en fait. On manque de fonds pour investir sur du long terme sur ces entreprises.
Anne-Sophie
Alsop. Non, mais ça montre aussi la question de l'union des marchés de capitaux. C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas mis en place les bons outils, on va en effet stigmatiser telle ou telle structure. Le problème, c'est qu'on a un projet d'union des marchés de capitaux en Europe
qui patine. Hein. On n'a que 6 pays qui sont d'accord pour l'instant pour le monter.
Et donc, justement, ont pour objectif d'avoir une profondeur de marché, d'avoir un investissement long terme, de flécher les investissements sur l'industrie européenne et notamment sur les secteurs stratégiques européens. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On a des très, très fortes dépendances. Donc, c'est ça, en vrai, le vrai sujet qu'on ne règle pas ou peut-être pas assez vite. Et donc, parce qu'on ne le règle pas assez vite, en effet, on essaie de stigmatiser d'autres acteurs. C'est vraiment là-dessus, je pense, qu'il faut se fonder, quitte à faire...
Vous pensez qu'on va y arriver à un moment ? Moi, ça fait 15 ans que j'entends parler de l'union des marchés de capitaux.
On l'a vu, pas en France, mais voilà, l'Allemagne s'est quand même remis à réinvestir. C'était quand même quelque chose d'assez fondamental quand vous voyez la structuration de l'économie allemande qui, elle, est très dépendante des exports. C'est l'inverse de nous avec la consommation des ménages. Pareil, les pays du Sud, Italie et Espagne, ont massivement réinvesti avec le plan de résilience pour l'Europe. Donc, on voit qu'il faut vraiment réinvestir, même dans les contributions à la croissance, partout dans les pays européens, on redevient positif. Donc ça, il y a vraiment l'idée qu'il faut investir. Après, la question, c'est comment on trouve les volumes d'investissement. Et là, en effet, on retombe sur la problématique de profondeur de marché et l'union des marchés de capitaux qui n'est pas achevée.
Et d'éducation financière aussi, hein, parce qu'on se rend compte quand même ce qui manque en Europe par rapport aux États-Unis ou par rapport à des pays comme les Pays-Bas et les pays nordiques, c'est sur certains pays européens, il y a un vrai manque d'éducation financière. Donc on essaye de faire le job ici, mais il y a quand même un véritable manque d'éducation financière aujourd'hui. Certains ménages ont peur quand ils investissent sur les marchés actions. Et l'autre point important, c'est quand ils veulent avoir du rendement et prendre du risque, eh bien, ils vont investir aux États-Unis. Ils n'investissent pas en Europe.
Et en même temps, les rendements sont supérieurs aux États-Unis. Mais
donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, on n'investit pas assez, on manque d'actifs qui ont du rendement. Quand on veut du rendement, eh bien, on va le chercher aux États-Unis. Il y a quand même 30% de notre épargne qui se redirige vers les États-Unis quand on veut aller avoir un peu plus de rendement. Ou autrement, il y a une préférence pour l'immobilier. Et quand c'est les actifs financiers, eh bien, c'est pour les dépôts ou tout ce qui est à taux qui n'ont absolument pas les rendements.
C'est la culture de l'Europe, on est conservateur.
Oui, mais quand on veut prendre du risque, on sort de nos frontières. C'est quand même des comportements à changer.
L'immobilier propriétaire. Hein. Je rappelle, on en parlait tout à l'heure, là, qu'on a tué le bailleur privé dans ce pays, à force de taxes, de règlements. Et donc, des bailleurs privés, il y en a quand même de moins en moins.
Oui. Hein,
C'est une des données majeures de la crise du logement dans ce pays. Par contre, les Français, et c'est peut-être parce qu'on a tué le bailleur privé, donc l'un et dans l'autre, par contre, les Français sont très volontiers propriétaires de leur logement principal.
Oui, la pierre reste
une grande partie de l'épargne des Français. Et c'est vrai qu'on devrait, en fait, pour avoir des marchés plus équilibrés de ce point de vue-là, on devrait avoir évidemment le bailleur social, l'accession, et on devrait avoir des bailleurs privés.
On parle de fonds vautours là avec le rapport d'Aurélie Trouvé, mais il y a des fonds activistes aussi. Est-ce que vous avez eu affaire à des fonds activistes dans votre carrière?
Non, pas trop, parce qu'en fait, quand ça marche bien, ils viennent pas.
Ils sont pas venus vous voir. Donc vous n'avez pas eu.
Non, pendant mes 18 ans chez Unibail, il y en a pas eu de fonds activistes. Ils sont venus après parce que la maison a eu ensuite quelques difficultés. Heureusement, c'est un peu derrière, mais. Non, les fonds activistes, tous ces fonds, toute cette forme de capitalisme.
Pas agressif, qui existe aussi.
Ils vont quand il y a des niveaux de valorisation attractifs.
Ils obligent les managements à se bouger un petit peu. Ils provoquent des évictions de patrons.
Oui.
Ce qui, franchement, de temps en temps, est utile, je le dis tranquillement. Nous, en France, on a un petit peu l'habitude. Vous savez, de temps en temps, encore quelques amis à la FEP, c'est toujours les mêmes. Alors, c'est pas compliqué. Le turnover des grands patrons en France, c'est on retombe toujours sur les mêmes. Alors, en plus, maintenant...
Plus qu'ailleurs.
Oui, qui avait beaucoup été plus qu'ailleurs. Et puis, en plus, ils terminent leur carrière comme président non exécutif du conseil d'administration. Alors, c'est toujours encore les mêmes. Ce sont les carrières qui n'en finissent plus. Là, il n'y a pas d'âge de la retraite.
Effectivement.
Oui, donc, en fait, on a une population plus âgée qu'aux États-Unis. Et puis surtout moins mobile. C'est une des caractéristiques.
Donc c'est une forme de capitalisme utile, mais qui n'atteint pas trop la France. On est assez protégé de ça globalement. C'est un peu ce que vous nous dites.
On a une vision un peu traditionnelle de la gouvernance de nos entreprises. Oui. Bon, c'est sympa, on les connaît. Bouge pas.
On n'est pas des fils. Souvent, l'entreprise demande la stabilité normative, fiscale.
Voilà. Et par contre, quand ça va mal, il y a les fonds de vautours qui viennent. Et donc, là, il y a du turnover.
OK. Bon, une dernière question très rapide, parce qu'il nous reste encore quelques secondes ensemble. Est-ce qu'il faut plafonner la dette des LBO? Est-ce que les LBO, c'est un gros mot aussi en français, hein? Leverage buyout, je rappelle, c'est du rachat par entreprise avec effet de levier. Donc on endette l'entreprise pour la racheter et on oblige un peu à booster la performance.
Ça, moi, je
il faut l'encadrer ou pas, Anne-Sophie
Altif? Quantitatif pour évaluer même ce qui se fait au niveau européen. Après, ce que vous avez très justement dit, c'est que il y a vraiment la question de la performance. Et justement, si vous êtes dans un marché en pleine croissance avec de l'investissement qui est moins basé sur la consommation, c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir de la performance pour tous les acteurs et aussi pour vos salariés. Donc il y a un côté un peu effet boule de neige qui est très positif quand vous avez un peu plus d'investissement dans la contribution de votre économie.
Évidemment. Bon, Guillaume, vous citiez l'exemple de Picard tout à l'heure.
Non, en fait, je pense que la vraie différence, c'est l'horizon. Moi, j'aime bien investir dans les entreprises familiales parce que c'est vrai qu'il y a plus d'horizon, il y a plus de longueur, il y a plus de maturité, etc. Aller faire un gros TRI sur 4 ans ou 5 ans, c'est
un taux de retour sur investissement.
Si on commence à sortir tout l'immobilier ou le trésorerie, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est mis avant et critiqué dans ce rapport.
Donc un peu d'équilibre. Vous êtes d'accord avec ça, Valentine?
Un peu d'équilibre. Ce que je voudrais mettre en avant, et c'est pas simplement un problème européen, c'est qu'aujourd'hui il y a une asymétrie très forte sur le financement des grandes entreprises qui ont accès au marché et des petites entreprises qui ont juste accès au financement bancaire. Et là, c'est vraiment un sujet, mais pas seulement en Europe, aussi aux États-Unis. On appelle ça l'économie en cas. Mais pour moi, c'est vraiment un sujet qui va devoir être abordé. C'est ce financement pour les petites entreprises qui n'ont pas accès au marché aujourd'hui.
Il faut ouvrir le marché obligataire aux petites entreprises. Il faut trouver le moyen d'ouvrir le marché obligataire aux petites entreprises. Je suis tout à fait d'accord. Passons d'un grand groupe à une petite entreprise. 200 points de base pour le même taux d'endettement. Exactement. Pour les mêmes actifs, oui. 200 points de base plus cher.
Allez, parce que sujet majeur, on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. Merci à tous les trois, Anne-Sophie Alsif, Guillaume Poitrinal et Valentine Hénouz pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay. Tout de suite, c'est Sarah Gandroin pour BFM Entreprise spécial Leadership. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.